Le rappel de l'arrivée de Noël, qui vient à nous par toutes sortes de formes et par toutes sortes de déformations, nous ramène à notre réalité qui peut être pas si drôle que ça. Par exemple, la personne qui vit seule dans la vie, lorsqu'elle entend le message de Noël comme quoi que c'est le temps joyeux de la fraternité et de la famille, est confrontée à sa dure réalité de solitude. La personne qui vit dans le besoin matériel et s'est répertoriée à une personne sur 10 dans l'ouest de l'île de Montréal, en voyant que c'est la fête de la générosité et que c'est la fête des cadeaux, elle va être naturellement confrontée au fait qu'elle recevra peu de cadeaux, ou pire encore, qu'elle n'aura pas les moyens d'acheter des cadeaux pour ses propres enfants. Et puis, dans une ville comme Montréal, il y a toutes sortes de personnes comme mon amie Andréane qui a collé sur son frigo un mot qui dit « Cette année, Andréane, je me promets à moi-même de ne pas entrer en conflit avec mon frère à la fête de Noël quand il commence à boire, comme je l'ai fait l'année passée et dans toutes les autres années. » Combien de milliers de personnes autour de nous préfèrent éviter les rassemblements à Noël et rester seuls? Parce que Noël aussi, souvent, nous rappelle que nos relations sont fragiles ou endommagées ou même faussées. En ce qui me concerne personnellement, j'ai lutté toute cette semaine dans mon être intérieur. Moi, c'était avec le stress des préparatifs de Noël. Ceux pour la famille, ceux pour l'Église. C'est un stress que je ressentais comme amplifié à cause des attentes des autres et mes propres attentes. Après tout, il faut que Noël soit parfait, c'est Noël! Toute la semaine, je me suis buté à mes propres limites. Alors, il y avait les limites humaines normales. Vous allez me dire, c'est normal. Ça vient du fait que je suis humain, que Dieu m'a créé limité pour que je me tourne vers lui. Par exemple, mon temps était limité, mais j'avais beaucoup plus de choses à faire que de temps pour les faire. Mon corps avait une énergie limitée. Même mon âme aimait passer du temps avec du monde, mais à un moment donné, se fatiguait. Et puis, il y a le budget aussi. Mon budget était limité. Vous me direz que c'est normal. Je suis d'accord. Mais ce qui m'attristait, c'est que je me butais aussi au péché qui est toujours à la porte. Il est toujours là. Cette tentation de revenir à mon ancienne manière de penser et de vivre qui dit « Dieu n'est pas à l'œuvre ici ». Manque de vision, incapacité de voir ce que Dieu est en train de faire dans les autres personnes, dans les situations. Tension avec les membres de ma famille sur la manière de faire les choses. Impatience avec le rythme des autres. Ou peut-être peur de l'impatience des autres avec mon rythme à moi. Manque de générosité durant la période de générosité. La liste est encore plus longue, mais je ne veux pas trop vous accabler. Mais je vais résumer mon dilemme comme ceci. Or que toute ma foi est basée sur le message de Noël, c'est-à-dire Dieu vient vivre parmi nous, Dieu vient vivre en moi. Toute ma foi est basée là-dessus, mais crime que je trouve que mon cœur n'est pas approprié pour lui. Mon cœur me déçoit. Mais heureusement qu'il y a du pop-corn. J'entends, est-ce que c'est du pop-corn qui est en train de cuire là-bas? Non, c'est pas ça. Heureusement, Dieu est venu à moi dans son amour cette semaine. Dieu est bon. Et parce que je devais préparer ce message, Dieu est venu me parler par l'Évangile. Et heureusement que j'ai cette grâce d'être obligé de préparer des messages. Dieu vient me parler, il vient me remettre sur mon chemin. Il est venu me montrer sa grâce. Il m'a parlé des 7 demeures du Christ, les 7 logements où Christ est venu durant sa vie terrestre. Et ça m'a donné espoir à nouveau pour mon cœur. Il m'a remis sur mes pattes, puis j'aimerais vous en parler ce matin. Alors, on va prier. Après ça, je vais vous lire un passage des Écritures. Donc, un bout du prologue de Jean. Et après, je vais vous parler des 7 logements du Christ. Je dis logement parce qu'il y a le côté temporaire de logement que j'aime bien. Les 7 logements du Christ. Prions. Mon Dieu, je sais que ce n'est pas facile d'écouter un sermon. Donne-nous de l'attention. Donne-nous de discerner ta voix, ta belle et agréable voix, à travers les paroles du prédicateur ce matin. Ô Seigneur, guide-moi pour que je sois petit et que ta grâce soit grande. Amen. Bon, alors, tournez dans votre Bible à Jean chapitre 1. Parce que là, j'avais les versets 9 à 11, mais ils sont perdus, là. Ils sont... OK? Je vais lire à partir du verset 9. Donc, ceux qui cherchent dans leur Bible, le début de l'Évangile de Jean, c'est... Jean résume l'histoire de Noël, mais c'est comme... C'est un texte, c'est comme s'il était assis dans la station spatiale. Il regardait les choses de très, très haut. C'est Noël d'une perspective cosmologique. Il parle de Jésus ici. Jésus qui est Dieu le Fils et qui est la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. On poursuit un petit peu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Bon, voyons qu'est-ce qui se passe avec les diapos. Oh oui! Alors, les 7 logements du Christ, ce que je vais faire, je vais prendre la vie de Jésus, OK? En commençant par la fin, en remontant jusqu'au début. Vous allez voir, ça va être plus encourageant comme ça. Et cet endroit où Dieu le Fils, où le Messie a accepté d'être logé, parce qu'il y a un pattern. Dans chacun de ces 7 logements, on voit qu'ils étaient à la base inappropriés pour lui, mal préparés, inconfortables, parfois même hostiles. Mais dans ces 7 logements, le Fils s'adapte avec grâce et vérité, comme dit le verset qu'on a lu tantôt. Il est venu, il nous a montré la grâce et la vérité. Et lui entre dans ses logements avec grâce et avec vérité. Il les transforme par sa présence. Il les purifie par sa sainteté. il remplit l'espace, puis il les étire. C'est comme s'il les gonflait par sa divinité. Puis ça, c'est un enseignement pour nous aujourd'hui. Il nous enseigne, ce Jésus, à nous adapter nous-mêmes dans notre rôle comme logement de Jésus. Parce que toi, tu es un logement pour Jésus-Christ aujourd'hui. Toi et nous tous ensemble. En contemplant son humilité, sa grâce et sa vérité lors de sa vie, Jésus nous invite, nous aussi, à une position d'humilité, de grâce et de vérité. Donc, parlons de ces sept logements, un par un, en commençant par la fin. Vous l'avez deviné, le premier logement dont je veux parler, c'est le tombeau. Le tombeau de Jérusalem. Jésus, parole éternelle, venue d'auprès du Père. Dieu le Fils, descendu dans l'amour et la vérité. Après avoir été tué par ceux qui devaient l'accueillir, il est placé, non pas là où le peuple aurait pu être en communion et à l'écoute de leur roi, mais dans un endroit confortable pour leur cœur endurci et hypocrite. Une belle tombe fermée. Là, il est scellé dans la roche, isolé. Il ne peut plus parler. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Je dis « on » parce que c'est à cause de nous, puis c'est avec nous, en quelque sorte, que ceux, que les coupables qui l'ont tué, l'ont tué. On était impliqués, nous autres aussi. Englouti par la solitude, la mort, et on pensait aussi à la décomposition. En tout cas, c'est vraiment pas la place que le roi des rois aurait dû loger. Mais lui, il a accepté. Il a décidé d'y aller. Et en allant dans cette tombe, il a été planté comme une semence de blé dans une terre noire, une terre froide, ensemencée dans la profondeur de notre planète inconfortable. Puis cela a permis que le Saint-Esprit vienne et lui redonne cette nouvelle vie qui est la résurrection. Amen. Donc moi aussi, j'ai invité Christ, puis Dieu il a planté la semence de Christ en moi quand j'ai reçu Christ. Et toi aussi, tu l'as peut-être déjà fait, ou tu peux le faire aujourd'hui, tu peux recevoir Christ. Il frappe à ta porte. Et c'est une semence dans le tombeau qui est toi. Oui, c'est vrai. On se regarde soi-même puis on se dit, les murs de mon ancienne nature cherchent à faire taire Christ. Mais Christ est plus fort. Lorsqu'on confesse notre dureté, lui nous parle. Puis lui, il invite l'Esprit à venir nous donner, à nous aussi, cette nouvelle manière de vivre qui est la vie ressuscitée. Je l'ai vécu cette semaine, et c'était une semaine difficile. Il a fallu que plusieurs fois Jésus intervienne. Mais allons, reculons encore un peu, un autre logement où Jésus était locataire, la croix. La croix. Jésus, l'innocent, le juste juge éternel, il s'est laissé faussement condamner par nous, des mauvais juges. Lui, c'est celui qui est envoyé pour juger avec vérité. Il s'est laissé juger dans la fausseté par nous qui jugeons par l'apparence puis les fausses attentes. On pensait que le Messie fallait qu'il soit d'une certaine manière, que la gloire de Dieu se manifeste de telle manière. Puis comme ce n'était pas ça, on l'a condamné. On a logé son corps de coupable, coupable, entre guillemets, sur le poteau de la culpabilité, ce n'est pas un logement adéquat pour le roi des rois. Mais lui, il a accepté d'y aller. Il a décidé d'y aller. Il a même fait de cette croix son trône. Et comme ça, les humbles de la terre, qui connaissent leur brisement, qui finissent par le reconnaître, peuvent élever les yeux vers ce roi cloué et recevoir la rédemption. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Donc, moi aussi, en contemplant ce roi qui a été logé sur cette croix, temporairement, heureusement, cela me rappelle que Christ est capable de prendre la souffrance de ma part. Maintenant, il est logé dans mon cœur et des fois, il voit ma fausse justice se manifester, mes fausses manières de penser, mes fausses attentes par rapport à Dieu. À chaque fois, il m'offre un torrent abondant de pardon qui coule encore et encore de sa croix. Ce torrent d'amour et de grâce. Vous connaissez peut-être ce chant. Un chant plus de Vendredi Saint, mais ce n'est pas grave, on en parle à Noël aussi. Et il me rappelle que la vraie vie en lui, c'est que moi-même, je dois être prêt à souffrir humblement pour le bien des autres lorsque lui me le demande, en suivant son modèle. Troisième logement. Là, je parle de sa vie de missionnaire ambulant. Jésus avait dit une fois, concernant sa vie adulte en mission, les renards y ont des tanières, puis les oiseaux ont des nids, mais moi, le Fils de l'homme, j'ai nulle part pour reposer ma tête. Vous connaissez ce fameux verset. Jésus a vécu une vie inconfortable de nomade. Jésus a accepté l'instabilité de ce que les missionnaires appellent aujourd'hui la vie par la foi. Au lieu de bâtir sa propre sécurité, il aurait pu le faire. Et même Satan lui avait offert des occasions en or de le faire. Mais lui, il a choisi la vie de missionnaire. Il a compté sur la générosité et l'hospitalité des êtres humains, alors qu'il savait lui-même qu'on ne peut pas compter sur les êtres humains. Mais ça a marché pareil, jusqu'à temps qu'on le laisse tomber. Puis là, il s'est fait crucifier. Mais il vivait par l'hospitalité des autres. Pourquoi? Il savait que pour rejoindre les êtres humains, il devait se rendre auprès d'eux dans la vulnérabilité. J'ai raconté au moins une fois cet automne l'histoire de quand il est arrivé en Samarie, terre hostile, terre étrangère, et il était dans un endroit public, il avait soif. Il n'a pas sorti sa bouteille d'eau Naya de son sac à dos. Il a demandé à une pure étrangère, « Donne-moi à boire. » Puis, si vous lisez l'histoire dans Jean chapitre 4, la Samaritaine, mais cette demande a donné lieu à toute une situation de contact humain et de contact missionnaire, pas mal extraordinaire. « Donne-moi à boire. » Le nomade, le missionnaire. Jésus vivait vraiment dans la foi en son Père. Il devait faire confiance aux humains. Et moi aussi, en ayant accueilli Christ dans cette terre de mission qui est mon cœur, il faut que je l'accueille, il faut que j'accepte Christ dans sa simplicité. Moi qui suis compliqué, j'accueille un invité qui est simple. Il m'apprend à être simple comme lui. Mais des fois, ça ne marche pas. Des fois, il doit me corriger. Des fois, je me pète la gueule, comme on dit. Et il est là pour me ramasser et pour m'aider à voir la vie comme lui, il la voit. Et puis surtout, j'accepte, je n'ai pas le choix, j'accepte d'être en mission avec lui, en commençant par ceux qui sont les plus proches de moi, avec les insécurités que ça apporte, mais il est avec moi. Quatrième logement, on recule encore un peu, son humanité. La parole s'est faite homme, nous dit le verset 14 du prologue qu'on a lu. La parole s'est faite homme, puis l'ancienne traduction est plus littérale. La parole s'est faite chair, c'est-à-dire vraiment son humanité, la même que la nôtre. Il s'est fait chair. Voilà ce qui était nécessaire pour sa mission. Habiter la chair humaine. Lui, le divin incarné dans le créé. Lui, l'être infini drapé dans les limitations frustrantes du créé, du temporaire. C'est quelque chose d'inimaginable. Mais lui, il a décidé de le faire. Pour toi, pour moi. Et cette semaine, dans mes difficultés, dans mes frustrations avec moi-même, j'ai compris que Jésus, il a fait ça, il a pris ma chair, il a pris notre chair, parce que lui-même a accepté le défi d'apprendre à vivre dans l'obéissance et la foi en Dieu. Il l'a vécu parce que personne n'a été capable de le faire. Lui, il l'a fait, puis il l'a bien fait. Il l'a même fait à la perfection. Puis il est devenu le précurseur, hein, nous dit l'Épître aux Hébreux. Le premier à obéir, à montrer la voie, puis là, il nous entraîne à sa suite. En vivant en nous, il nous guide dans la bonne manière de faire pour vivre dans la foi et dans l'obéissance. Il est là pour me coacher. C'est ce que j'ai compris par rapport à mon cœur. Me coacher dans cette nouvelle façon de vivre que Jésus a inaugurée. Il l'a fait pour nous, il le fait en nous, puis il nous entraîne pour le faire avec lui aujourd'hui dans notre vie. C'est l'image que C.S. Lewis utilise dans son petit livre « Voilà pourquoi je suis chrétien ». Il dit « Jésus est comme notre maîtresse de première année ». Notre maîtresse de première année qui nous a appris à écrire des mots en français. OK? Elle a appris avant nous. Elle arrive, et puis, pour nous apprendre à former les lettres, quand on a de la misère, elle va comme prendre notre main qui tient le stylo dans sa main, puis va nous aider à former les lettres jusqu'à temps qu'on soit capable, puis là, elle va nous laisser faire. Jésus l'a fait avant nous, puis il nous apprend à le faire, vivre dans la foi et l'obéissance. Amen. OK, on est rendu au cinquième logement, là. La mangeoire du bœuf dont on parle beaucoup et qu'on chante beaucoup ces jours-ci. On ne cesse de le dire. Les tables des vaches et des bœufs, ce n'est pas le lieu approprié pour les débuts de la vie d'un roi. Hein, dans une ville moderne comme Montréal, ça serait l'équivalent qu'un couple, ils amènent leur bébé, ou même semble-t-il que le bébé y est né dans cet endroit. Mais à Montréal, ce serait comme un garage. Comme, est-ce que c'est l'endroit où un roi devrait être né? Un garage. Mais c'est bien là que sa mère et son père ont été obligés de le coucher. Ils étaient des migrants dans une ville achalandée et distraite, puis il n'y avait pas d'autre place. Et puis, la mangeoire, la fameuse mangeoire, hein, une boîte de bois avec du foin dedans, puis de la salive de bœuf. Quel berceau ridicule! Quel berceau ridicule! On est tellement habitué à avoir des berceaux, des mangeoires décoratives à Noël, on ne réalise pas le ridicule de la chose. Quel berceau ridicule! Mais ils n'avaient pas le choix. Quand tu es désespéré, tu fais avec qu'est-ce que tu as. Et c'est ce que Marie et Joseph avaient à vivre. C'est ce que le Père Céleste a décidé. Il a fait loger là son fils. Et Jésus a accepté de le faire. Par sa présence divine, Jésus, pourtant, il a attiré la lumière de Dieu dans cette étable. Hein? Toute l'histoire qu'on va lire demain, là, c'est, il y a plein de lumière dans ce drôle d'endroit, marginal, sombre, humiliant. Jésus l'a rempli de lumière parce qu'il attirait la gloire de Dieu là. Et il y avait des signes aussi qui indiquaient qu'ici, un plan sacré de Dieu était en train de s'accomplir. Et donc, des gens humbles, des gens simples étaient attirés pour reconnaître cette présence de Dieu. On pense aux bergers, ces bergers qui étaient aussi des marginaux. Mais il y avait des grands aussi qui sont venus, les mages d'Orient. Eux, c'est qu'ils étaient humbles par leur soif de la vérité. Ils savaient qu'ils ne savaient pas tout. Ils sont venus adorer ce roi céleste dont ils ne connaissaient rien à part l'étoile. Dans mon cœur aujourd'hui, c'est la même chose. Je peux me sentir inapproprié comme endroit pour loger Jésus. Je peux me sentir comme une boîte remplie de foin qui est recouverte de salive. Je suis comme une crèche, je suis comme une mangeoire. Mais si j'accepte que je ne suis qu'un simple homme, puis que c'est Dieu qui a décidé de venir à moi, pour la simple raison qu'il m'aime, eh bien, si je le crois, eh bien, L'humble Jésus va attirer vers moi aussi les signes que Dieu est là, que Dieu même m'utilise dans mon petit coin de la terre pour sa gloire. Oui, il y aura des jours où je me regarde dans le miroir et je me dis, je suis juste une mangeoire de bœuf, puis je vais continuer à être une mangeoire de bœuf. Je me prends pour un palais, mais je ne le suis pas. Mais ce n'est pas grave, parce que je sais qu'il y aura des jours aussi, puis c'est déjà arrivé, où, oh, Dieu, il s'est servi de moi pour quelque chose. Quelqu'un a vu quelque chose à travers moi, puis a cru que Dieu agit dans le monde. Ce n'est plus mon affaire. J'ai juste à marcher, j'ai juste à croire, puis Dieu fait le reste. Alors, tu peux, toi aussi, être une mangeoire pleine de lumière. Amen. Amen. Sixième logement du Christ. Il a déménagé beaucoup. Mais son premier, durant son parcours terrestre, le ventre de sa mère, Marie, le sein de Marie, comme on dit. Vous vous souvenez, quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, la Vierge de Nazareth, la petite fille, pour lui dire qu'elle allait porter en son sein le Messie de Dieu, alors, on insiste beaucoup sur le fait qu'elle a dit oui, puis c'est une belle chose comment qu'elle a dit oui, mais on remarque qu'elle a hésité quand même. Il y a eu quand même un peu de discussion avant. des questionnements et on peut comprendre son hésitation. Qui suis-je, moi? Je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas apte. Je ne suis pas capable. Je ne suis qu'une jeune fille. Les historiens nous disent que probablement elle était entre l'adolescence et l'âge de femme. Alors, peut-être aussi, par rapport à son corps, elle se posait la question, est-ce que je suis prête? Mais elle a cru en Dieu. Et Dieu est venu. Jésus est venu s'installer en elle. Il a choisi Marie dans sa petitesse et sa pauvreté. Et en grandissant dans son ventre, elle aussi grandissait comme personne et comme croyante. Alors, d'abord, elle était étirée physiquement. Comme toute femme enceinte, elle a été étirée, mais c'était symbolique d'une autre sorte d'étirement. Son cœur prenait de l'expansion, car elle a embarqué dans une nouvelle vie de foi. Et quelle vie qu'elle a eue, cette femme-là, en accompagnant, en éduquant, en souffrant avec Jésus. Elle est devenue une femme de foi et de vertu qu'on chante encore aujourd'hui, qui est un modèle pour nous. Et c'est à travers la présence de Christ en elle. Alors, il y a eu cette première présence physique de Jésus, le bébé, le fœtus qui est devenu bébé. Elle aussi a dû, comme nous tous, recevoir le Christ ressuscité en elle. Mais sa grossesse nous rappelle aussi, nous enseigne aussi. Que Jésus vient dans des endroits inconfortables. Il a accepté de devenir un fœtus vulnérable, dépendant du corps d'un être humain créé. Moi aussi, dans mon cœur, Jésus est entré. Mais ce cœur était trop petit pour lui. Alors, il pousse sur les murs de mon cœur. Il fait grandir mon cœur. Il fait grandir ma personne. Les murs de mon cœur sont durs et étroits, mais j'apprends à m'ouvrir à Dieu. J'apprends à aimer les autres. J'apprends à renoncer. C'est Jésus qui pousse. C'est lui qui m'apprend à me dépasser. Et quand je tombe, il me parle. Il n'est pas surpris par mes ratés. Il n'est pas surpris par tes trébuchements. C'est un processus. C'est comme une grossesse aussi. Il va te relever, il va te pardonner, il va te parler, il va te remettre sur ton chemin. Donc, le septième logement, mon cœur. On en a parlé déjà beaucoup, mais c'est ça qui nous intéresse maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe avec ce cœur qui nous déçoit bien souvent, ce cœur qui est le nôtre? C'est sûr qu'on aurait pu parler de deux autres logements, mais on n'a pas le temps. Jésus, après la tombe, est assis sur un trône à la droite de Dieu le Père. On aurait pu en parler pas mal. Ça sera pour une autre fois. L'autre aspect, c'est qu'avant de venir dans notre cœur, il est venu dans le cœur d'autres personnes. On peut dire que le corps de Christ, tous les croyants, le corps universel, c'est aussi un logement de Christ sur la terre. Il faudrait qu'on en parle. Mais pour former ce corps, il faut des cœurs individuels qui le reçoivent. Et c'est ce que je veux. Je veux conclure en disant quelques mots sur ton cœur et le mien. On a vu comment, durant son incarnation, le roi des rois a toujours choisi des logements mal préparé, mais que lui est venu décoré par son amour, tapissé de sa grâce, lavé par sa vérité. Puis en s'abaissant lui-même, il les a élevés. Puis nous, on est des princesses et des princes qui se promènent sur terre, hein, parce que Christ vit en nous. Amen. C'est comme cela qu'il a manifesté la gloire de Dieu, en s'abaissant pour élever. Que ce soit dans le tombeau, ou sur la croix, ou sur la route du missionnaire, dans sa chair, qui est la nôtre, dans la crèche ou dans le ventre de sa mère, il les a tous transformés par sa grâce et sa vérité. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans ton pauvre cœur. Ce cœur qu'il est en train de rendre riche. Ouvre-lui la porte. Peut-être que tu es découragé avec toi-même. C'est un bon point de départ. C'est un très bon point de départ. Tu es désespéré avec toi-même. Excellent! C'est le point de départ. Tourne-toi vers lui. Il est le spécialiste des situations désespérées, des cœurs irréparables. Ouvre-lui ton cœur. Puis si tu lui as déjà ouvert, dis-lui ce matin, « Seigneur, je suis désolé d'avoir été découragé. Je te redonne la place du maître dans mon cœur. Viens, transforme-moi. » Oui, tourne-toi vers lui ce matin. Ouvre-lui ce cœur qui en a tant besoin. Il ne va jamais être surpris par la noirceur qui peut être en toi. Peut-être que tu luttes avec une dépendance. Peut-être que tu as lutté toute l'année avec quelque chose de secret. Toi, tu le sais. Lui, le sait. Il comprend encore mieux que toi. C'est quoi qui t'amène là-dedans? Il veut te guérir. Il veut te laver de ça. Il veut t'amener vers d'autres chrétiens qui vont t'aider à t'en sortir. Mais il n'est pas surpris par ta noirceur. Il savait d'avance. Il est là pour pousser sur les murs trop étroits de ton être intérieur. Tu vas devenir avec lui une personne grande, une personne ouverte, une personne qui aime. C'est ça la bonne nouvelle de Noël. Amen! On peut vivre Noël toute l'année avec ça. Donc, pour terminer, je t'invite à prier avec moi. J'ai trouvé une belle prière dans mes lectures de cette semaine, dans un livre sur l'Avent, qui est la période de préparation de Noël. Je l'ai adaptée un peu pour nous, cette prière. Levons-nous, et puis tous ceux qui veulent, j'espère que c'est tout le monde, priez avec moi. Peut-être que tu n'as pas encore reçu Christ dans ton cœur. Fais-le ce matin. S'il est ressuscité et il frappe à ta porte, tu peux le recevoir. Prions ensemble et puis à la fin de la prière, j'inviterai l'équipe de louanges à venir. Puis, libre à vous, Benoît et Suzanne, si vous voulez inviter d'autres prières spontanées, à vous de voir. Oh, vous avez une belle chanson, c'est merveilleux. Mais prions, invitons Christ maintenant. Père, je te remercie pour mes limites. Merci parce que c'est toi qui m'as créé avec mes limites. Mais Père, je veux reconnaître aussi que tu as permis même que je tombe souvent, même dans le péché, et que, hélas, le péché a creusé des trous dans mon cœur. Je te reconnais, je te rends gloire. Tu savais ce que tu faisais. Merci d'avoir envoyé Jésus. Merci pour sa rédemption. Merci pour la sanctification qu'il apporte. Et puis toi, doux Jésus, toi que nous célébrons en ce temps de Noël, merci aussi d'avoir choisi de loger dans mon cœur Je sais, Seigneur, je l'avoue, l'espace est limité. Tu vois toutes mes capacités limitées, toi qui es infini. Tu vois que c'est un espace qui a encore besoin de nettoyage, Seigneur. Jésus, aide-moi à être accueillant pour toi. Aide-moi à faire confiance à ta simplicité, ta bienveillance. Tu es si gracieux. Je veux être attentif aujourd'hui à ton souffle infini dans chaque moment resserré de ma vie. Amen.